Bonjour à toutes et à tous. Pâques, j'allais dire, pour nous, chrétiens, c'est tous les jours. Je veux dire, tous les jours, le Seigneur est vivant, mais on veut, voilà, souligner. Aujourd'hui, particulièrement, on a fait ces moments pour se souvenir, comme Jésus l'avait introduit, pour se souvenir de Pâques, dans des moments particuliers. Et c'est pourquoi je voulais poursuivre ce qu'on avait commencé, hein. On poursuit, là on avait vu un Pâques, une vie qui détruit la mort, une mort qui donne la vie. Et on avait vu ensemble, que Jésus nous avait introduit sur, avant sa mort, Jésus explique sa mission. À sa mort, Jésus accomplit sa mission. Et ce matin, nous allons voir ensemble, après sa mort, Jésus envoie en mission. Parce que aujourd'hui, hein, on est dans un monde qui nous informe sur les différentes missions. Nous devons tous les remplir. Aujourd'hui, on est appelé à remplir des missions. En plus, on a vu qu'en ce moment, avec le climat de guerre, il y a des missions humanitaires. Il y a des gens qui sont envoyés. Quand on est au travail, on a des missions. Je suis chargé de mission. Nous avons aussi la mission citoyenne. On est appelé à aller voter. On est appelé parfois aussi à donner un coup de main aux communes, à les nettoyer, à les ranger. On en appelle à notre citoyenneté. On a des missions. Si on est chef, on a des missions aussi à remplir vis-à-vis de l'entreprise en tant que parents, si on est parents ou grands-parents, on a aussi les missions d'accompagner les enfants. Le monde se lance des grandes missions, la mission de la conquête de Mars, la mission de sauvegarder la planète. On est dans un monde finalement missionnaire, tellement de missions pour nos vies, tellement d'obligations. Et parfois on a même la mission de s'amuser. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la mission d'envoyer se divertir. Mais en tant que croyant, qu'est-ce qu'on va faire de la grande mission ? Parce qu'une fois qu'on est converti, une fois qu'on a été découvert, justement, cette croix, qu'est-ce qu'on fait de cette grande mission ? Parce qu'il y a une grande mission à laquelle Jésus nous a appelés. Et nous avons à cœur cette belle mission que Jésus nous a confiée ? Ou est-ce qu'elle est devenue avec le temps quelque chose qui est en filigrane de notre vie chrétienne ? Et ce matin, donc, Bible en main pour clore ce moment que Jésus envoie en mission. On va lire Matthieu 28, on va lire ensemble. Et on va voir que c'est motivant. Matthieu nous motive dans la manière, enfin personnellement quand je l'ai préparé, ça motive dans la manière dont c'est écrit. C'est motivant, je vous propose de le lire ensemble, moi je vais le lire dans la version second. Donc Matthieu 28, après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient recevoir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte, avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après cette assemblée avec les anciens, avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de la peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez, et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Jusque-là, j'ai juste prié. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est parvenue jusqu'à nous. Et merci parce que ce matin, tu veux encore nous parler. Nous instruire par ta parole, Seigneur, parce qu'elle ne cesse jamais de nous instruire, de nous reprendre, de nous corriger, de nous rappeler que tu es vivant. Alors, sois béni, sois adoré, et vraiment que tu ouvres les oreilles de notre cœur. Amen. Alors là, on a un contraste, hein. Je rappelle le contexte. On est le premier jour de la semaine. Jésus, il y a une semaine, jour pour jour, il entrait dans Jérusalem, sous ce qu'on appelle le dimanche aujourd'hui, le dimanche des rameaux, sous les vivas de la foule, hein, qui criaient « Baruch Abba, Bechem Adonai », c'est-à-dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Voilà, on avait cette joie. Et tout au long de la semaine, on va avoir le point culminant de la tristesse, de la mort à la croix, seul, Jésus crucifié avec quelques personnes qui restent autour de lui, ça c'est ce qu'on a vu, hein. Il va expliquer sa mort, il va mourir. Mais là, on a, j'allais dire, un retour de cette joie et un retour en rapide. En tout cas, dans la manière dont Matthieu nous le décrit. Jésus est mort, son corps est mis au tombeau et des femmes pieuses veulent l'embaumer proprement, mais c'est le Shabbat, donc elles y vont le lendemain. Donc elles viennent très tôt. Elles viennent très tôt. Elles ont sûrement la tête remplie de plein de questions. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes sont restés. Mais elles veulent. Et on a une impression de lourdeur. Le temps, c'est comme arrêté. Dire à la crucifixion, il fait nuit. On a vraiment un bouleversement de quelque chose. Et là, tout va s'accélérer. Les disciples, lui, ils se cachent. Ils sont en proie au doute, à l'avenir incertain, plein de tristesse, plein de questions. Un temps qui est figé, un temps qui est dans la crainte, d'amertume, de regret. C'est un peu dans cet état d'esprit que les femmes vont aussi là, en disant qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que notre vie va devenir? Où était le sens caché de quelque chose? Jésus est mort, c'est fini. Et quel est le sens? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quel est le but de notre vie? Et là, le premier point que je voudrais partager avec vous, c'est un monde qui est en mouvement. On a une impression de mouvement. Alors tout bouge. La terre, l'ange, la pierre, les femmes, Christ, les gardes, les rumeurs, les disciples. Tout se met à bouger d'une manière assez incroyable. On a un résumé en 20 versets d'une espèce de rapidité. Tout le monde va se mettre en mouvement. On court. C'est le mouvement. Il n'y a pas de répit, ou très peu. Tout va très vite. Le monde est changé. On a une expression de rapidité, on a une impression d'urgence, on a une espèce d'envoi. Jésus est ressuscité. C'est ça, finalement, pourquoi le monde a changé. Cette résurrection entraîne le monde dans une nouvelle révélation de Dieu et abat pour de bon le mur de séparation. Jésus avait annoncé sa mission, Jésus a accompli sa mission, et par sa mort, maintenant, il amène une ère d'envoi en mission. Et l'envoi en mission, c'est la mise en mouvement, c'est une action du Saint-Esprit. En nous, à travers nous, et par l'Église aussi, et c'est la grande et belle mission. Et nous le lisons, hein, tout est mis au mouvement. Ils arrivent, la terre tremble, mouvement de la terre, la pierre est roulée, mouvement de la pierre. L'ange est descendu. Mouvement de l'ange. Tout est mis en mouvement. Le corps est ressuscité. Donc Jésus est parti. Donc il n'est plus là. Il y a aussi du mouvement. Les femmes, elles courent. Elles arrivent au tombeau. Après, elles courent. Elles rencontrent Jésus. Elles courent prévenir les disciples. Tout le monde a l'impression de courir. On a une rapidité. Les gardes aussi partent. Ils sont accueillis par les responsables qui leur disent qu'ils vont les protéger. Alors pourquoi ? Il faut savoir que si un garde s'endormait à son poste, il était puni de mort. Voilà pourquoi ils disent, dites que les disciples vous les prient pendant que vous dormiez, et si ça vient aux oreilles du gouverneur, on vous délivrera de ce qui va vous arriver. Parce que les gardes prenaient un risque de mort, en fait. D'ici, s'ils sont endormis, c'est que c'est une erreur de leur travail. Leur mission à eux, c'était de rester réveillés. Hein. Et là, eux aussi, hein, ils tombent comme morts. Et par deux fois, il y a une espèce aussi de choix où l'ange dit « ne craignez pas, les femmes ne craignent pas ». Jésus leur dit « vous ne craignez pas ». Les gardes ont peur, mais celles qui recherchent Jésus n'ont pas à avoir peur de ce qui arrive. Parce que le monde va s'agiter, le monde va maintenant être séparé, pas par nous, hein, mais par le choix qu'ils vont faire de la croix. Le monde va s'agiter car Christ est ressuscité. Quelle bonne nouvelle! Bonne nouvelle pour certains, mauvaise nouvelle pour d'autres. Et on voit même, hein, il y a même les bruits qui courent. Et la rumeur a couru, le bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour, au verset 15. Donc, c'est toujours cette rumeur qui court que les Juifs l'ont pris. Ils l'ont volé. Matthieu ne s'intéresse pas vraiment au temps, dans la temporalité, hein, mais il va vraiment au point central. La résurrection de Jésus entraîne une mise en action, une mise en mouvement de quelque chose qui était, et on arrive donc à une ère différente. Il y a un changement parce que Jésus-Christ est ressuscité. Sans cette résurrection, le monde serait allé à sa perdition. Mais comme il y a la résurrection, comme Jésus est ressuscité et il vous précède, Il dit, allez trouver, dites à ses disciples qu'il le précède en Galilée. Et Jésus répète ça, je les précède, va dire à mes frères, je les précède en Galilée. C'est aussi une, ça nous rassure aussi pour nous, Jésus nous précède de ce que nous pouvons vivre. Jésus nous a toujours précédés, il est mort le premier parce qu'il devait être le premier en tout. Il nous précède et c'est cette mise en mouvement, c'est un temps qui va très vite. Il y a une accélération des temps de cette nouvelle génération. Dieu s'est invité lui-même dans l'histoire des hommes. Avant c'était par les prophètes, elle c'était par son fils. C'est quelque chose qui a changé. Il s'est invité dans l'histoire, il s'est inscrit, il a décidé de s'incarner, il a décidé de mourir. Il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Et nous sommes héritiers, bénéficiaires de cette mise en action, de cette mise en mouvement, de cette mise en avant. On a une espèce de détonateur, la croix. Et la Bible, elle converge vers la croix et après elle part de la croix. C'est des dessins qu'on peut faire pour expliquer. La croix, elle est au centre. C'est le point central, mais la croix, elle est vide. Vous voyez, chez nous, la croix, elle est vide. Parce que Christ est ressuscité. Et c'est cette mise en mouvement, c'est cette détonation qui a ébranlé le monde. Et on voit, hein, c'est une espèce d'impulsion que Christ a donnée par sa résurrection. Il y a une impulsion. Et cet épicentre, c'est la croix. Et ça va embraser le monde connu. Et ça va même embraser le monde total à la fin. Aujourd'hui, dire l'évangile s'est répandu partout, de bonne ou de mauvaise manière, mais beaucoup de gens ont entendu parler de la croix. Après, on ne les convertit pas, nous. On est chargé, notre mission, c'est d'en parler. Sans la résurrection de Jésus, tout ceci est inutile. Sans la croix vide, tout cela est vide de sens. Sans tombeau vide, tout cela est inutile. Et un mort ne peut pas envoyer en mission, si par héritage, par un legs, mais sinon, là, c'est Jésus lui-même qui le dit. C'est lui qui va le dire, qui va envoyer en mission. C'est ce qu'il faut comprendre. Si Jésus est vivant aujourd'hui, c'est car Dieu a accepté sa mort. Le châtiment, la dette qui était payée par Jésus était acceptée par Dieu. Donc il ne pouvait pas rester mort. Donc il est vivant. Ma dette est payée, dit un chant. Ma dette est payée. La dette a été payée par Jésus, on l'a chanté aussi. Et c'est l'acceptation de cette dette qui fait que Jésus est ressuscité. Et que moi, aujourd'hui, j'ai accès à Christ et accès aussi au Père. La résurrection de Jésus, c'est notre justice face à un Dieu saint, trois fois saint. Si Christ est pas ressuscité, c'est comme on le disait lors du début de ce culte, eh ben notre foi est vaine. Hein. Je relis pas, j'avais exactement le même passage que Josué nous a lu dans 1 Corinthiens 15, où Paul se défend, justement, avec des personnes qui déjà remettent en cause la résurrection de Jésus. Et il explique que s'il est en train de mentir, il dit il y a des gens qui sont encore vivants. Il se trouve que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qui a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Ça, c'est au verset 15. Et après, il l'a dit, il est apparu, et après, il va dire au verset 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. » Il est en train de leur dire, si Jésus n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien ce qu'on est en train de faire. Moi, je suis en train de souffrir pour rien, et vous aussi. Donc, c'est malheureux. Et il l'a dit, Christ est ressuscité des morts, vous pouvez même aller voir les gens, il est apparu à 500 personnes, dont certains sont encore en vie à l'époque de Paul. Donc il dit, si je suis en train de vous mentir, allez voir aux personnes à qui il est apparu. Une personne peut mentir, mais s'il en reste 200, si vous racontez tous la même chose, on commence à se dire, on ne va pas passer notre foi sur un mensonge aussi gros. Il est en train de leur dire, si, ça existe, la résurrection des morts, Jésus est ressuscité, c'est pour ça qu'on a la foi. Car si Christ n'est pas ressuscité, ben on témoigne contre Dieu. La semaine de Pâques, c'est un point central dans le monde, même si le monde l'oublie. On est d'accord, aujourd'hui, le Pâques, c'est autre chose que ce que ça devrait être, ou le déforme. Mais la mort et la résurrection de Christ mettent le monde en mouvement, soit vers le jugement, soit vers le salut. Parce que Dieu, il parlera plus par autre chose maintenant. Ça, c'est dans l'Épître aux Hébreux, il le dit, il a parlé d'abord par les prophètes, mais il a parlé par son Fils, dans les derniers temps. Dire la croix, il n'y a pas d'autre preuve que Jésus va envoyer. Tout est accompli. Avec la croix, on a suffisamment de repères pour croire ou ne pas croire. C'est le comble à son amour, dira aussi un apôtre. Donc la semaine de Pâques, c'est vraiment la bonne nouvelle d'annoncer Jésus-Christ ressuscité. C'est cette bonne nouvelle. Et c'est là Jésus envoie en mission. Hein. C'est là où On va en venir. Jésus envoie en mission. Christ, Jésus est vivant. Et parce qu'il vit, il peut parler et donner un ordre ultime avant son retour sur terre. Il va dire en Matthieu 28, verset 18-20, « Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » On a vu, hein, Jésus, il a accompli sa mission par sa mort, et sa résurrection est la preuve, aujourd'hui, que Dieu peut pardonner aux pécheurs. Jésus est vivant maintenant à jamais. Il vit éternellement. Et c'est ce Sauveur, ce Seigneur qui a tout accompli, qui va demander à ses disciples de l'annoncer partout. Imaginez, hein, on a vu, hein, dans ce chapitre, tout va très vite. Leur maître, ils retrouvent leur maître. Il a à peine retrouvé, il va les quitter, il va partir d'une manière incroyable. Les disciples vont vivre des moments très forts avec lui, parce que bon, là c'est pas dit, mais il va rester 40 jours. Et il va les envoyer en mission. Ils vont être mandatés par leur maître, en personne. Mettez votre foi en action. Faites connaître ce que je vous ai dit. Faites-le connaître autour de vous d'abord. Et il y a un autre passage où il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous imaginez, vous dites ça à des disciples, peu importe leur nombre, hein, qu'ils soient 500 ou 12, on ne sait pas, plusieurs théologiens discutent là-dessus, mais il y a un petit nombre de personnes, Jésus leur dit ça, jusqu'aux extrémités de la terre. On imagine humainement une telle mission. Et on avait vu, hein, dans les actes, on avait fait ensemble les actes ici, on a vu à quel point Jésus lui-même, par le Saint-Esprit, va s'intégrer à cette mission. C'est-à-dire, vous ne serez pas seul, je suis avec vous tous les jours. Et c'est une promesse qu'il fait. Et il va donner le don du Saint-Esprit. Et au travers le Saint-Esprit, on le voit dans Actes, que c'est lui-même qui agit au travers les personnes. C'est des circonstances. On a vu, hein, dans Actes 2, verset 47, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Le Seigneur, il n'est plus là physiquement. Acte 5, verset 14, « Et le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes, femmes, augmentait de plus en plus. » Acte 6, verset 7, « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Voilà, la parole de Dieu. On a l'impression que c'est vivant, on a l'impression que cette mise en action, cette mise en mouvement qui a été initiée par la résurrection se répand. On a chanté, hein, des torrents, « Ton amour viendra comme un torrent ». On a cette impression que le Seigneur ouvre, que le Saint-Esprit se déverse, et le Saint-Esprit fait son rôle. Et les hommes ne sont là que dépositaires de la bonne nouvelle, mais c'est le Seigneur qui invite. C'est le Seigneur qui invite. Le monde d'alors et le nôtre d'aujourd'hui ont été profondément transformés par cette mission. Je suis personnellement, pas moi directement, mais mes parents sont personnellement dépositaires de personnes qui ont mis cette mission en action, en allant trouver mes parents et leur dire « Jésus-Christ est vivant ». S'ils ne l'avaient pas fait, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais il y a des personnes, et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont dépositaires de personnes ainsi, qui ont mis cette mission en action dans leur vie, en allant, pas forcément loin, mais en allant vers un voisin, vers un proche, vers un collègue, en disant « Jésus est ressuscité ». Quelle bonne nouvelle! Et la mission de Jésus, qui change tout, peut se diviser en trois ordres, trois commandements. Allez, baptisez, enseignez. Allez en mission. Toujours dans le mouvement, Jésus va exhorter à l'action de rencontre, d'aller par le monde, tout le monde, pour annoncer son œuvre, pour annoncer sa mort et sa résurrection. Et il dit annoncer, et nous ne sommes pas appelés à convertir. Ça, c'est des fois, c'est un peu notre frustration, on ne convertit personne. Nous, on annonce la bonne nouvelle, et comme il est montré dans les actes, hein, qu'on vient de lire, c'est le Seigneur qui amène, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Mais à annoncer, allez annoncer, allez annoncer. Est-ce que je suis en mouvement? Est-ce que j'ai pris ce commandement de Jésus au sérieux? Bien, parfois, non. Je dois admettre que parfois, je ne vais pas l'annoncer. Même autour de moi. Hein. Alors que le Seigneur, qui est mort pour mes péchés, et que j'appelle mon Seigneur. Donc un Seigneur, c'est quelqu'un qui normalement commande. Ah ben, je suis capable de me taire parce que j'ai peur. Je suis capable de rester silencieux. Alors que le Seigneur appelle peut-être un collègue, un voisin, un proche, mais j'ose pas. Alors que le Seigneur, il dit, je suis avec vous, je suis avec toi. Mais est-ce que je suis un témoin en mouvement? Est-ce que chacun d'entre nous peut l'être ou se force à l'être? Et ça, c'est le premier pas seulement. Parce qu'après, il dit faire des disciples. Il dit pas faire des chrétiens, il dit faire des disciples. Et les baptiser, selon l'ordre de Jésus, le baptême ne sauve pas, mais annonce au monde que désormais nous sommes disciples de Jésus-Christ. Un baptême, c'est ça, c'est je marche maintenant dans les pas de celui que je reconnais comme mon Sauveur et Seigneur. C'est la deuxième étape. J'ai reçu l'annonce de la bonne nouvelle, qu'est-ce que j'en ai fait? Si j'y ai cru, je marche comme un disciple et je vais vers le baptême. Et je le baptême au nom du Dieu trois fois saint. Celui qui nous a sauvés en Christ est le Saint-Esprit qui nous est offert. Quelle grâce! Le Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un mystère, mais aussi une grâce. Et après, c'est enseigner. Bien sûr, les personnes qui se convertissent, les personnes qui ont désir de servir le Seigneur et qui se baptisent, on ne doit pas les laisser seuls. On les invite à rejoindre l'église locale, et c'est ça, le lien qu'on avait vu dans les actes. Dans les actes, les personnes converties rejoignaient l'église locale, l'église de maison de l'un ou de l'autre. Mais ils ne restaient pas seuls. Parce que c'est impossible d'être un chrétien seul. Un chrétien sans racine, tout seul dans son coin, à part dans des milieux très persécutés. Dans les milieux persécutés, peut-être. Le Seigneur peut permettre ce genre de choses. Mais quand parfois je lis dans les milieux persécutés où ils risquent leur vie à se retrouver, même à très peu, parce qu'ils ont conscience qu'ils ont besoin de l'autre, et que parfois nous, on a du mal à aller au culte parce que je boite un peu. Et c'est là où pourtant le Seigneur nous invite à être enseignés. Parce que l'enseignement, ça dure toute une vie. C'est là où on va grandir. Enseigner, c'est-à-dire former des disciples pour une croissance spirituelle saine. C'est pas seulement d'avancer, de baptiser seulement, mais d'accompagner les croyants dans une relation avec Christ qui va grandir. Et comment faire? Là encore, Jésus, il donne toute la réponse. Il dit pas, allez, faites des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça va peut-être pas faire plaisir à certains des fois milieux, mais il dit tout ce que je vous ai prescrit. Il ne dit pas que ce qui vous plaît ou que ce que vous aimez parler. Non, il dit tout. Tout ce qui a été prescrit est bon. Et Paul le reprendra. Hein. Toute écriture a été écrite pour exhorter, enseigner. Il n'y a pas un bout de l'écriture qu'on peut sortir parce que ça ne nous fait pas plaisir. Mais c'est là où le Seigneur nous dit, ben voilà, il va y avoir des lieux, des endroits où on va se retrouver et on va être enseigné. Par l'un, par l'autre. Et Paul va, voilà, lui va, j'allais dire, construire tout ce qu'est l'Église, là où les lieux on peut se retrouver, là où on peut, j'allais dire, compléter ce que le Seigneur nous a demandé, aller baptiser, enseigner. Et c'est ce qui va créer toutes ces églises de maison qu'on va voir, qu'on a vu dans Actes. Mais si on regarde à la fin d'Actes, il y a, bon c'est pas moi qui l'ai fait, mais il y a des gens qui ont calculé ça de manière très savante, il y avait peut-être entre 500 et 1000 chrétiens dans l'Empire. C'est pas beaucoup. Mais par leur foi, à 300 ans plus tard, ils sont quasiment 1 million, 1,5 million. Parce qu'ils vont tenir bon, parce qu'ils vont aller enseigner, baptiser, exhorter. Et je trouvais ça assez intéressant de voir le petit nombre qui sont partis, en fait. Des fois, on se dit, on est petit, on n'est pas grand-chose, qu'est-ce qu'on peut faire comme différence? Eh bien, le Seigneur, il est parti sur 11 personnes au départ, qu'on connaît, plus peut-être quelques autres, mais 11 personnes à Jérusalem, et il y en a eu, par la prédication de Pierre, 3000 qui sont invités. Bon, le Seigneur était à l'œuvre. Mais qu'est-ce que Pierre? Tout seul, s'il avait dit, non, moi je vais pas parler là, non, ils sont trop nombreux, non, on va aller peut-être un petit nombre. Non, il a pris la parole, par le Saint-Esprit qui venait de leur être donné, 3000 personnes. Bon, je souhaite pas forcément qu'on ait tous 3000 personnes, mais c'est pour nous, voilà, pour nous exhorter à le faire. En tout cas, moi je sais que c'est quelque chose que j'ai plus de mal. Et il dit bien, c'est tout de la parole qui doit être enseignée. Enseigner toute la parole. Et aujourd'hui, parfois dans une chrétienté malade, c'est parce que toute la parole n'est plus enseignée. Et c'est toute la Bible et pas celle qu'on déforme. Et après, il leur dit, il leur donne ses ordres, mais il va leur annoncer, mais Jésus, il sait que la tâche ne sera pas facile. Il sait qu'elle sera longue. Vous imaginez, hein, les disciples qui attendaient déjà son retour dans les années 70, 100. Voilà, là on est en 2022, toujours pas revenu. C'est l'espérance, hein. C'est l'espérance. Les premiers chrétiens, ils ont retrouvé une prière à la fin qui disait de chaque culte, c'est que périsse ce monde et que vienne ton règne. Là, ils avaient déjà, ils disaient, ouais, le monde, il est tellement mauvais, forcément Jésus va revenir. Et c'était dans les années 100, 110. Allez, ils désespéraient déjà de voir Jésus revenir alors qu'il venait de partir, parce qu'ils n'en pouvaient déjà plus. En tant qu'hommes, en plus, ils vivaient la persécution, des choses terribles. Et voilà, ça, c'est la difficulté de la tâche que le Seigneur nous a donnée. C'est pourquoi il dit à ses disciples, attention, vous allez faire ça. Mais vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas sans pouvoir. Je vais vous donner le Saint-Esprit. Et lui, il dit bien, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et au ciel. Tout pouvoir. On a du mal à le croire aujourd'hui. Hein. On regarde les infos. Christ, il n'a pas l'impression d'avoir tout pouvoir. Mais ça, c'est... Nous, on en est sûr. Il n'y a rien qui échappe au pouvoir. Et la promesse a été tenue. Hein. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul par le Saint-Esprit qui nous a été donné à la conversion et par la présence de Dieu en nous. Nous avons donc un soutien précieux pour cette belle mission. Ne craignons rien. Christ est ressuscité. Il possède tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Alors, j'apprends rien, mais j'ai besoin de le faire. J'ai besoin de m'en rappeler quand, pour avoir l'audace d'ouvrir ma bouche quand je me tais. Je dis non, tout pouvoir a été donné. C'est-à-dire, il n'y a aucun pouvoir qui peut me lier. Tout pouvoir. Jésus-Christ possède tout pouvoir. Et conclusion, hein, pour finir sur ce passage, Christ est ressuscité, quelle bonne nouvelle, hein, c'est ce qu'on nous ont chanté les enfants tout à l'heure. Quelle bonne nouvelle. Est-ce vrai? Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous? Si pour nous c'est une bonne nouvelle, gloire à Dieu. Nous sommes invités alors à la partager. Si pour toi c'est pas une bonne nouvelle, interroge-toi sur ce qu'est la croix, sur ce qu'est ce signe, sur ce qu'est cet avertissement de Dieu. La croix, c'est aussi un avertissement en disant, voilà ce que j'ai fait pour l'humanité. J'ai donné mon Fils. Je pourrais pas faire plus, je pourrais pas faire mieux, tout est accompli. Donc, qu'attends-tu de Dieu? Il a fait sa part, feras-tu la tienne? Et comme je le disais, hein, j'ai rien appris, c'est sûrement des révisions. Mais simplement, j'aimerais qu'on se souvienne, en tout cas, j'ai parlé pour moi quand je l'ai préparé, souvenir que c'est Jésus lui-même qui a donné cet ordre. Allez, est faite de toutes les nations des disciples. Allez, est faite de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Alors, on n'a peut-être pas tous, comme je le disais, partir à l'autre bout du monde, mais autour de nous, et à rejoindre, et à vivre aussi dans cette église où on peut être, et là ça nous regarde encore tous, enseigner tout ce que le Seigneur a dit. Et c'est Jean qui disait, hein, qui va dire à la fin de son évangile, je vais m'arrêter là parce que si j'écrivais tout ce que Jésus a dit, ben on n'aurait pas fini d'écrire. On n'aurait pas fini d'écrire, il y aurait tellement de livres à dire. Donc, Jésus est ressuscité, il est vivant et il nous mandate encore aujourd'hui d'aller, de baptiser et d'enseigner. Puissions-nous obéir à cette belle mission pour faire connaître l'œuvre de Dieu pour les hommes par son Fils. Essayons de faire nôtre ces versets d'exhortation que Paul donnait à son jeune frère dans la foi, Timothée, dans 2 Timothée 4, versets 1 et 2. Et ça, voilà, c'est vraiment, on essaie de l'avoir pour nous. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Voilà, ça dépend de où on est, mais voilà, il nous invite à prêcher la parole. Il nous invite à ne pas nous taire. Et il dit pas pour moi, hein. Il dit je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et si Jésus a accompli sa part, puissions-nous, par le Saint-Esprit, accomplir la nôtre.